Pour moi, je pense que parfois, on passe à côté de l'essentiel de ce passage, qui est finalement devenir des brebis du Seigneur. On va lire ensemble ce psaume que vous connaissez bien. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Un passage qu'on nous récitait depuis qu'on est enfant, pour ceux qui l'ont expérimenté cela, et qui est néanmoins clé. Et pour moi, même si on a plein de bénédictions qui arrivent après, la clé du verset reste néanmoins le début. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ce qui veut dire que moi, je suis une brebis du Seigneur. Et tout commence par cette phrase. Et tout réside dans cette capacité à être réellement des brebis du Seigneur. Ce matin, on va beaucoup parler de brebis. On va un peu essayer de décortiquer ou de disséquer ce texte et d'étudier cela afin que Dieu puisse nous transformer et nous renouveler. Dans une société aujourd'hui beaucoup individualiste, où on a beaucoup d'auto-entrepreneurs, où on a beaucoup de self-made men, comme disent un peu les anglophones, où on a beaucoup de courants, on a beaucoup de sensibilités, devenir brebis n'est pas toujours un signe de force, mais parfois plutôt observé comme un signe de faiblesse. On dit, mais oui, toi tu suis un peu comme un mouton. On dit, toi, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez autonome, tu n'es pas assez individuel ou indépendant. Mais pourtant, la bénédiction de Dieu, c'est de faire de nous des brebis et des brebis du Seigneur. D'ailleurs, la Bible associe Jésus comme une brebis. Même plus, comme le petit d'une brebis, à savoir comme un agneau. Et lorsque vous regardez dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui aiment souvent aller regarder un peu par là, vous réalisez qu'il y a un passage où on dit qu'il y a un livre avec sept sceaux dont personne n'est capable d'ouvrir, dans les cieux, sur la terre, comme sous la terre. Et on voit Jean en train de pleurer. Il dit, mais qui pourra ouvrir le livre? Et qui pourra ouvrir les sceaux? La Bible dit que c'est l'agneau de Dieu. Non pas le lion, mais c'est l'agneau de Dieu. Alors Dieu veut faire de nous ses brebis, réellement. Et parfois, en ne devenant pas des brebis du Seigneur, sans s'en rendre compte, on devient des brebis d'autre chose. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est conduit généralement par plusieurs choses. Parfois, c'est par un courant sociétal, parfois c'est la société qui nous conduit, par le style vestimentaire, par une mode. Parfois, c'est par des idées, ça peut être du libéralisme, ça peut être du capitalisme, ça peut être du socialisme, de l'universalisme, de tous les ismes que vous pouvez ajouter. On peut être conduit par cela. On peut être conduit aussi par la rébellion, par le rejet, par la tristesse. Mais ce que Dieu veut faire de nous, c'est des brebis de son Seigneur. Il veut que tu sois une brebis. Peut-être, à un moment donné, tu passeras du stade de brebis et peut-être Dieu te confiera des personnes en tant que responsable, peut-être en entreprise, peut-être dans le service de l'église, peut-être à être un peu berger d'une certaine dimension. Mais même si tu es berger ponctuellement, tu restes néanmoins aussi une brebis. Jésus était un berger, mais également une brebis du Père. Et ce matin, je voudrais vous amener à être comme le Seigneur Jésus, à le ressembler et à devenir de véritables brebis. Et quand moi je méditais, quand je réalisais, quand je méditais sur ce passage, je voudrais évoquer avec vous sept domaines particuliers. Ça peut être considéré comme des bénédictions, Mais ça peut être aussi considéré comme des portes ou bien comme des chemins vers lesquels Dieu nous conduit réellement comme des brebis et vers lesquels il repose et il déverse sa bénédiction. La première, c'est que Dieu nous conduit vers des verts pâturages. Je l'ai appelé les verts pâturages de sa parole. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il s'agit là du rôle capital du berger. Le berger travaille, et là on rentre dans... On va étudier beaucoup de la vie du berger ou de la vie d'une brebis ce matin pour comprendre ce texte. Parce que parfois on le récite, on le comprend pas comme il faudrait le comprendre. Et donc, il s'agit du rôle principal du berger. Il travaille d'arrache-pied afin de nourrir ses brebis. Un berger se définit par sa capacité à nourrir ses brebis, à les conduire vers des endroits où le pâturage est frais, où le pâturage est bon, et à les nourrir abondamment. Les brebis se nourrissent principalement des plantes et des herbes, pour ceux qui ont déjà expérimenté cela. Et finalement, une brebis qui n'est pas bien nourrie, une brebis qui est chétive, une brebis qui est en mauvaise santé, et une brebis qui ne vit pas pleinement ce pourquoi Dieu l'a créé, ou bien ce à quoi Dieu l'a appelé, elle peut être affamée. Mais Dieu, quand il conduit nos vies, principalement, il nous conduit en nous nourrissant de sa parole et en répandant sa parole abondamment dans notre vie. C'est l'un des rôles principaux du berger. Et je me rappelle de mon expérience de stagiaire berger. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir à peine 12-13 ans, je passais souvent les grandes vacances d'été chez mon grand-père. Et il avait des brebis. Et c'était très drôle parce que quand je préparais ce message, je pensais beaucoup avec nostalgie à cette époque-là. Parce qu'on allait chez lui, il avait des petits brebis, des petits agneaux, des petits chèvres, des petits moutons dans son enclos. Et il nous avait donné un job. C'était stagiaire en brebis. Il fallait se lever très tôt les matins et aller trouver un emplacement adéquat afin de nourrir les brebis toute la journée. Et le soir, on revenait pour les récupérer et pour les ramener près de la maison. Au début, c'est très, très enthousiaste. On a envie de le faire. C'est passionnant. On dit, waouh, on avait une corde avec laquelle on les attachait et on les dirigeait, on les orientait jusqu'on passait souvent les montagnes parce que c'était une région un peu montagneuse. On traversait des chemins assez particuliers et on allait trouver un emplacement où on les donnait bien à manger, là où il y avait de la bonne herbe, des bonnes plantes, un bon emplacement pour elles. Bien sûr, on faisait aussi attention à ne pas les mettre dans un endroit un peu dangereux. Et je me rappelle, après, on les nourrissait et on revenait le soir ensuite les chercher et cela durait plusieurs vacances. La première fois, c'était passionnant. La deuxième fois, on a envie. La troisième fois, on a peur trop envie de se réveiller le matin pour le faire parce que ça commence un peu à être fatigant. Et on se rend aussi compte que les brebis ne sont pas aussi sages qu'on le voudrait. Parfois, elles sont un peu têtues. Et je me rappelle, on avait un voisin, il avait une chèvre ou un mouton. Je me demandais comment est-ce qu'il nourrissait parce qu'il était bien en forme, bien costaud. C'était pas juste de la chair, il était musclé, le truc. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il nourrit? Et on voyait qu'il réfléchissait bien à l'endroit où est-ce qu'il allait nourrir. Il prenait soin d'eux. Il prenait bien soin de ses brebis. Et mes amis, de la même manière, le Seigneur, qui est notre berger, prend soin de nous. Il nous donne sa parole. Il veut nous nourrir. Il travaille dur pour que nous puissions être sensibles à cette parole. Il veut nous nourrir. Il veut nous renouveler. Il veut nous donner la parole à propos. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mes brebis, quand j'étais stagiaire, mangeaient tout le temps peut-être le même type d'herbe. Et ce n'est pas toujours drôle de manger tout le temps la même chose. Peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. Mais Dieu les avait conduits à se nourrir principalement des plantes. Et moi ainsi, à les nourrir. Et peut-être en tant que brebis, tu n'auras pas toujours, les plantes que tu as envie. Mais Dieu te donnera ce dont tu as réellement besoin pour grandir et pour marcher tous les jours. Comment est-ce que Dieu nous nourrit principalement? Moi, j'ai trouvé trois moyens principaux que je trouve partager par lesquels Dieu veut nous nourrir et veut nous donner sa parole en abondance. Premièrement, au travers de la méditation quotidienne de sa parole. Moi, je bénis les gens qui m'ont appris à méditer la parole de Dieu et à avoir un culte personnel tous les matins. Tous les matins, je me lève et je me régale de sa parole. J'ouvre, je ne lis pas beaucoup de versets, je lis un ou deux, trois versets et Dieu me parle. Et lorsque vous développez la culture de vous lever et de passer du temps, peu importe à quel horaire, moment de la journée, moi je préfère le matin parce que c'est le moment où je n'ai pas trop de choses à faire, ou avant que la journée ne commence, et aussi j'ai envie de donner les prémices de ma journée au Seigneur. Et donc je passe ce temps et je me nourris. Et moi je veux vous encourager à vous nourrir parce que si Dieu a placé des perles dans sa parole, ce sera à vous d'ouvrir la bouche pour la manger quand même. Parce que moi, je peux conduire la brebis jusque près des herbes, mais il faut quand même qu'elle ouvre sa bouche pour la manger. Et chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous dites, Seigneur, j'ai faim, je veux manger. Et Dieu vous nourrit. Développez une culture de méditation régulière de sa parole et de sa parole directement est une façon agréable par laquelle Dieu prend soin de nous. Si tu veux être une brebis du Seigneur, ouvre régulièrement ta parole et nourris-toi. Cela fait du bien à ton âme. Vous savez, la particularité de la brebis, et là j'étais un peu frustré lorsque j'étais en stage brebis, ou stage berger plutôt, c'est que généralement on le faisait pour le vendre plus tard. Donc, parce que c'était un investissement familial finalement pour mon grand-père. Il les nourrissait et lorsqu'il y avait un événement dans le quartier, il pouvait le vendre et pouvoir avoir des revenus. Mais on aimerait que dès qu'il mange l'herbe, qu'on voit comment il prend du poids instantanément. On aimerait bien qu'à la fin de journée, il soit bien costaud, vous êtes d'accord avec moi, parce qu'on est un peu pressé. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que vous allez observer le fruit de ce dont il a passé du temps, ou bien le fruit de son travail, ou bien de ce dont il a mangé régulièrement. Et parfois, on est trop pressé, instantané, on veut les résultats tout de suite, maintenant. Mais parfois, ce sera après un temps, que vous allez réaliser cela. Donc, méditez sa parole tous les jours. La deuxième façon dont Dieu nous nourrit, c'est par la prédication de votre pasteur tous les dimanches. Oui, ce matin, vous pensez peut-être que je suis en train de partager la parole sur ce que je pense ou sur mon point de vue. Ça peut être une façon de voir les choses. Mais une autre façon de se dire, peut-être que le Seigneur est en train de me parler ce matin. Tous les jours, toutes les semaines, dimanche après dimanche, le Seigneur décide de vous nourrir au travers des messages qu'on vous communique ici. Dimanche dernier, le pasteur Georges nous parlait encore de la réalité de faire attention à notre salut. Aujourd'hui, je vous parle de la capacité finalement à devenir des brebis. Et jour après jour, Dieu vous conduit au travers de l'église locale dans laquelle il vous a établi. Et plus vous êtes sensible à cette parole, plus vous dites que peut-être c'est Dieu qui me parle, plus vous êtes ouvert à ce qu'on vous dit, plus Dieu prend soin de vous et vous nourrit. Au travers de l'école du dimanche, au travers de la formation Ma vie avec Jésus, au travers de la formation pour les couples, au travers de tous ces éléments-là, Dieu décide de mettre sa parole pour vous nourrir et pour prendre soin de vous. L'un des rôles principaux de l'Église, c'est de paître chacun d'entre nous. Moi, je bénis Dieu de ce que quand je me suis converti, j'ai été nourri dans mon groupe de jeunes. J'ai été nourri à l'église locale. J'ai été nourri régulièrement. Et moi, je pense que cette nourriture-là est toujours différente des autres qu'on peut recevoir. Une prédication sur Internet ou bien un livre, je reviendrai beaucoup plus tard sur cela. Mais Dieu nous nourrit globalement parce qu'il sait qu'au sein de l'église locale, jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il nous nourrit et il prend soin de nous. Et c'est son désir et c'est sa soif. Donc j'aimerais vous inviter, quand vous arrivez le dimanche, dis Seigneur, arrivez avec l'attente, Seigneur, j'ai envie de recevoir de ta parole aujourd'hui. J'ai envie de retourner avec quelque chose que tu vas mettre dans mon cœur et qui va me transformer radicalement et qui va me nourrir. Seigneur, nourris-moi et Dieu le fera fidèlement. C'est la raison pour laquelle, même si on est tous les brebis du Seigneur, le Seigneur dirait quand même à Pierre, paie mes brebis. À ceux qui sont dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, il leur dira, enseignez ma loi afin qu'ils marchent selon ce qui est écrit. Rappelez à vos enfants ceci ou cela. Dieu désire que nous puissions vivre sa parole au quotidien. La troisième façon dont Dieu, je pense, se nourrit régulièrement, c'est par l'écoute des prédications ou la lecture des livres de qualité. Moi, je pense qu'il nous parle au travers de sa parole quotidien. Il nous parle au travers de la prédication régulière tous les dimanches et à tous les différents moyens que Dieu a mis en place dans notre Église. Et notre Église est riche de cette diversité-là, au travers de la préparation au baptême, au travers de ma vie avec Jésus, au travers des formations qui sont préparées. Moi, je vous encourage tous à être fidèles dans ces choses-là, à vous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Mais la troisième chose dans laquelle il fait, c'est par l'écho des prédications, mais aussi par la lecture des livres chrétiens. Moi, je pense que les livres chrétiens inspirés de bonne qualité sont vraiment des véritables atouts pour pouvoir nous bénir et pour pouvoir nous nourrir. On peut reconnaître la qualité de votre vie par la qualité de ce que vous écoutez, de ce que vous lisez. Plus vous lirez des choses de qualité, plus vous allez grandir dans votre stature d'être spirituel. Et toute personne, moi le premier, j'écoute, je sais que j'écoute des prédications plus que vous tous, je suis quasiment sûr. Parce que j'en écoute tout le temps, y compris les miennes. Mais j'écoute les miennes pour autre chose. Je me réécoute souvent plutôt pour essayer de grandir, de me corriger. Et parfois, quand je réécoute, je dis, mais et je suis béni de mon propre message. Je dis, waouh, Cyril, merci Seigneur. Amen. J'oublie que c'était moi qui prêchais. Parce que j'essaie d'être suffisamment humble pour me dire comment mon travail de ce que j'ai dit, parce que je suis bien placé pour connaître tous les défauts et tous les manquements que je trouve dans mon message, mais je vais quand même me forcer à écouter pour être nourri et pour être béni. Si Dieu vous a attaché dans cette église, si Dieu vous a, bon, attaché, c'est peut-être pas le bon mot, qui vous a établi en ce lieu, c'est parce qu'il a une nourriture pour vous. Et même si vous êtes absent, essayez, il y a des moyens, il y a les CD, mais on trouve aussi, on réfléchit s'il y a des moyens peut-être pour pouvoir rendre beaucoup plus accessibles les messages, mais ça veut dire que Dieu a une parole pour vous. Et vous ne pouvez pas juste l'écouter de manière une fois sur 10. Alors vous serez nourri d'autre chose, mais si Dieu veut vous bénir au travers de cette communauté, nourrissez-vous abondamment. Et donc je disais que Dieu nous inspire aussi au travers des livres chrétiens. Lisez, je sais que tous n'aiment pas lire. Vous savez, je vous l'ai raconté à plusieurs reprises, moi j'aimais beaucoup lire juste les livres avec beaucoup d'images, très peu de caractères. Dès que je voyais un livre avec beaucoup, vous savez, les livres, ils sont écrits en tout petit comme ça. Et j'aimais juste les livres avec les gros caractères parce que ça passe très vite. Mais Dieu nous instruit. Et Paul, on le voit dans les Écritures, parle à Timothée, dit « Ramène-moi les parchemins, inspirez-vous ». Il y a quelque temps, le pasteur Georges a ramené quelque chose là qui est juste derrière là, à côté de Gladys, qui est juste derrière au fond. Quand vous baladez sur Paris, il y a quelque chose d'assez particulier qui est innovant. Donc, vous allez souvent, il y a certaines bornes de bandes de prêts, de livres. Donc, vous arrivez, vous baladez à un endroit, il y a des livres qui sont disponibles, et vous pouvez en prendre un, vous lisez et vous pouvez le remettre. Et donc, du coup, on a mis un là à l'église, pour que si vous avez beaucoup de livres chez vous, peut-être que vous ne lisez plus, pardon, des livres chrétiens, bien sûr. Donc, voilà, il faut ramener des livres chrétiens, c'est ma femme qui me dit... Des livres chrétiens, bien sûr. Vous mettez juste dans ce truc-là des livres, peut-être quelqu'un pourra passer et lire. Et il y a un mot qui est marqué, tu donnes et tu prêtes aussi. Peut-être un livre, tu déposes juste là, tu déposes un livre et tu passes, tu vois un livre. Ah, ça t'intéresse ce thème, tu le lis. Et peut-être la prochaine fois, tu le redéposes et tu empruntes aussi. Donc ce matin, j'ai ramené quelques livres là. Donc si vous voulez, vous en prenez. Bon, après, vous le ramenez quand même. Donc vous le ramenez pour d'autres personnes. Et ainsi de suite. Et vous pouvez ramener et ça fait en sorte que vous vous nourrissez. C'est des moyens aussi de pouvoir s'enrichir, et ça ne coûte pas trop cher, c'est gratuit. Et parfois, on a des armoires qui sont remplies de livres aussi, on peut en donner aussi un peu quelques-uns pour nourrir. Dieu veut nous bénir au travers de sa parole. Vous savez, c'est certainement la caractéristique principale d'une vraie vie, c'est que Dieu veut nous nourrir, notre être spirituel. Non seulement il veut nous nourrir, mais aussi il veut nous conduire. C'est la deuxième chose. Le Saint-Esprit, et ça, c'est ce que j'associe, il me dirige vers des eaux paisible. Non simplement, il me fait reposer dans de verts pâturages, il nous fait aussi, il nous conduit, il nous dirige vers des eaux paisibles. Et pour moi, c'est les eaux paisibles de son Saint-Esprit et de son esprit. Il y a un livre, peut-être que certains d'entre vous connaissent, écrit par Philip Keller, qui parle du berger. C'était un berger contemporain. C'est un monsieur qui était berger, on va dire, au XXe siècle. Et donc, il va essayer de ramener vraiment son quotidien de berger. Et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il raconte parce que moi, j'ai vraiment été berger stagiaire, mais ça ne compte pas, mon stage, c'était quelques mois, donc ce n'était pas très précis. Mais il nous plonge dans l'univers du berger et de la brebis et nous montre un peu le contexte. Et l'une des choses qu'il dit, c'est que comme tout être humain ou tout corps animal, les brebis sont composées à 70% d'eau. Et dès lors que vous avez moins d'eau dans votre corps, vous déshydratez. Et de la même manière que le corps humain a besoin sans cesse de boire de l'eau, notre esprit ou bien une brebis a sans cesse besoin d'être renouvelé de l'eau du Saint-Esprit, de la vie du Saint-Esprit, de la grâce du Saint-Esprit. Et cette eau vient nous rafraîchir, vient nous renouveler. Et la Bible dit qu'il y a un fleuve, et ça c'est dans le livre des Psaumes, un fleuve qui coule du trône de Dieu. Et ce fleuve, c'est l'eau du Saint-Esprit qui vient sans cesse nous renouveler, nous rafraîchir et donner de la vitalité à notre marche au quotidien. Certes, Dieu nous fait reposer dans des verts pâturages, mais aussi il nous conduit vers des eaux qui sont paisibles afin de renouveler notre passion pour Dieu. Quand on étudie le livre des Actes des Apôtres, plusieurs livres, on se rend compte que c'est possible d'être renouvelé à plusieurs reprises du Saint-Esprit, de recevoir un renouvellement du Saint-Esprit. Et on a besoin au quotidien de se tenir devant le Saint-Esprit et dire « Seigneur, remplis-moi de nouveau ». Je suis desséché, je suis affaibli. J'ai besoin que ton eau coule encore dans ma vie. Vous savez, une terre aride et asséchée, lorsqu'on y plante de la graine, a très peu de chances de porter beaucoup de fruits. Mais lorsqu'elle est renouvelée par l'action du Saint-Esprit, on voit comment cette eau vient dans nos vies nous renouveler. Les brebis se nourrissent de tout type, de trois principaux types de sources d'eau. Ce sont les sources d'eau, des ruisseaux, et on se nourrit aussi de la rosée qui est sur l'herbe, mais aussi de l'eau des puits. Et on a besoin sans cesse d'être nourri par l'onction du Saint-Esprit. Peut-être en étant de louange, Seigneur, remplis-moi de nouveau. C'est ce qu'on essaie de faire durant les veillées de prière aussi. On dit, Seigneur, nous voulons être renouvelés de ton esprit tous les matins. Seigneur, j'ai besoin que ma soif grandisse. On a tous des saisons où on a l'impression qu'on est sec spirituellement. On a l'impression que c'est difficile, on a l'impression que c'est difficile de lire la Bible, c'est difficile de croire en Dieu, c'est difficile de s'approcher de Dieu. Mais vous savez quoi? Le Seigneur veut nous conduire vers les eaux de son esprit pour nous renouveler, pour nous rafraîchir et pour nous réconcilier davantage avec lui. Et Philippe Keller, ce berger de temps moderne, raconte un peu une expérience qu'il a vécue. Il raconte une fois où, après avoir nourri ses brebis des eaux vraiment paisibles, des eaux vraiment agréables, avec tout son troupeau, quelque temps, il s'est dirigé avec eux. Et il y avait parmi eux, c'est un groupe un peu plus têtu, qui ont commencé à boire de l'eau sale, à boire dans la mare. Et cette eau était remplie de boue, d'insectes et même d'urine, en fait. Et pour eux, ils étaient en train de boire pas une eau de bonne qualité. Mais ils croyaient peut-être que pour eux, c'était de la bonne eau. Tout comme il y a des eaux paisibles, il y a aussi des eaux souillées qui peuvent provoquer des maladies dans notre corps. Et c'est important, l'apôtre Paul nous les enseigne, c'est important de faire attention avec quoi est-ce qu'on se nourrit. Ceux qui consultent les mauvais esprits, ceux qui font recours à la voyance, au culte des ancêtres, à toutes ces choses-là dont la parole de Dieu nous met réellement en garde. Soyons attentifs aux eaux dans lesquelles on va puiser. Ça peut être aussi les eaux de ce monde, ça peut être aussi tellement tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut écouter, sans toutefois être dangereux à premier abord, ce n'est néanmoins pas ce qui est bon pour nous et pour notre santé. La Bible nous invite à nous entretenir régulièrement par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, afin d'être sans cesse renouvelé de la vie de son esprit. Une brebis se nourrit et boit à des eaux paisibles, qui sont les vents et les douches du Saint-Esprit. La troisième chose que le Saint-Esprit pourrait faire au travers de ce que je suis en train de partager avec vous dans le psaume, c'est qu'il restaure mon âme. Il me fait reposer dans des lieux paisibles, il me fait reposer vers des verts pâturages plutôt. Deuxième chose, c'est qu'il me conduit vers des eaux paisibles. Troisième chose, il restaure mon âme. Et cette compréhension, c'est important de bien comprendre. Philippe Keller nous permet de comprendre la signification d'être une âme abattue. Et une brebis est abattue lorsqu'elle est retournée sur le dos et qu'elle ne peut pas se relever tout seule. Et qu'elle se bat et se débat de ses propres forces. Et après quelque temps, elle commence à paniquer, elle commence à être en stress, elle commence à transpirer, elle commence à être mal à l'aise. Elle se dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Parce qu'elle est un peu coincée, elle est juste sur son dos. Et elle commence à avoir des peurs et si elle reste longtemps dans cette position, elle peut commencer à suffoquer au point de mourir dans cette position-là. Parce qu'elle s'est simplement retournée et elle s'est mise sur son dos. Et lorsqu'il fait très chaud en plein été, le soleil commence à frapper sur sa tête et cela commence à être très douloureux et elle peut mourir quelques heures après. Lorsque ce n'est pas pendant l'été, en hiver ou pendant les saisons beaucoup plus pluvieuses, elle peut rester comme ça pendant plusieurs jours. Et lorsqu'elle est abattue, c'est cette même terminologie qui veut dire en fait elle a le dos tourné, elle est mal en point, elle est triste, elle est brisée, elle est frustrée, elle a à peine du mal à crier, elle est abattue. Et ça, c'est l'état dans lequel elle se trouve, et c'est un état très, très critique. Parce que lorsque le berger voit sa brebis retourner sur son dos, il sait qu'elle est en danger, et il se dépêche rapidement pour aller vers elle. Mais il n'y a pas que le berger qui regarde cette situation avec attention. Les prédateurs aussi regardent là. Parce que dès lors que la brebis a le dos tourné, il sait que c'est le moment approprié pour venir s'en emparer, la détruire, la manger. Et c'est ça, être une âme abattue. Et ce que le Seigneur nous enseigne, c'est qu'il restaure mon âme. Lorsque le berger voit cette situation critique, ce qu'il voit, c'est qu'il court rapidement vers la brebis parce que cela peut se jouer à quelques instants. Il peut venir un peu trop tard. Et donc, il va la prendre, il va la relever, il va l'aider à respirer à nouveau. Et elle va commencer à marcher, mais en titubant, il va l'accompagner au point où elle reprenne toute son énergie. Et c'est ce que notre divin berger fait. Quand il nous voit abattus, qu'il nous voit brisés, qu'il nous voit renversés, il vient vers nous et il restaure notre âme. Il nous relève, il nous prend la main, il nous conduit et il nous renouvelle encore par sa puissance et par sa force. Et mes amis, ne soyons jamais en position abattue et seule. Parce que la Bible dit que cela peut arriver à chacun d'entre nous. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Les bergers disent que cette situation d'abattement, à savoir de blessure, peut arriver aux brebis les plus fortes et les plus saines, et les plus grasses aussi, parce qu'elles ont bien mangé. Donc ce n'est pas notre force spirituelle, ce n'est pas notre capacité. Cela peut arriver à chacun d'entre nous. Mais ce qui est important, c'est de veiller pour ne pas tomber, mais surtout, c'est de regarder au divin berger. Parce que lui, il vient nous consoler quand on est attristé. Il vient nous relever quand nous sommes découragés. Il vient nous conduire dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des pleurs, dans la vallée de Baca. Lorsque c'est douloureux, lorsque c'est difficile, il est celui qui nous console et qui restaure notre âme. Lorsqu'on a été blessé par des paroles, par des attitudes et par des comportements, il est celui qui prend soin de nous et qui prend soin de nous réellement. Généralement, les brebis qui tombent beaucoup, moi je me posais la question, comment est-ce qu'elles font pour tomber régulièrement? Et en étudiant la vie des brebis, on se rend compte qu'elles tombent souvent parce qu'elles ont vu un petit creux très douillet où il y a une herbe qui est juste agréable et elles se couchent juste un peu et elles disent, oh c'est tout doux. C'est très bien. Juste après, elle se retourne facilement et les voilà complètement retournées sur le dos et un peu plus bougées. Mais également parce qu'elles ont de la laine qui est beaucoup épaisse, donc elles ont beaucoup de choses qui les encombrent en fait, qui symbolisent un peu de la vieille nature. Elles ont cette laine qui les encombre, ou elles sont aussi trop grasses, parce qu'elles ont trop mangé et elles ne font rien. Vous savez, quand vous mangez trop et que vous ne bougez pas, vous avez une maladie qui s'appelle l'obésité. Mais lorsque vous mangez et que ça sort beaucoup aussi par le sport, par tout ce que vous voulez, par le service, par tout ce que vous amenez à faire, alors vous êtes en pleine forme, physiquement. Et c'est comme ça, ce sont aussi ces brebis qui ont bien mangé, qui sont bien installés dans leur confort, qui ont plus la capacité à tomber. Et donc, pour faire attention à tomber dans ces pièges-là, évitons toujours les situations trop confortables. Un peu de dodo, un peu, juste les coins, juste rester tranquille dans mon coin, juste à l'aise, je veux, personne ne me dérange, je veux juste être un chrétien douillet, cool, tout va bien. Je viens le dimanche, j'écoute une bonne prédication, je rentre et puis c'est bien, et puis je veux juste personne ne me dérange, je reste tranquille dans mon coin. Mais attention mes amis, j'en ai vu plusieurs qui en disant je vais prendre un peu de recul pendant quelques temps, et après ce recul a été très longtemps. Et finalement ils se sont retournés sur le dos. Mais l'Éternel est celui qui vient nous relever et qui vient prendre soin de nous. Évitons aussi de nous embarquer et laissons le Seigneur nous muscler et nous transformer. Vous savez, les bons bergers, moi je disais que lorsqu'ils regardent qu'une brebis tombe souvent beaucoup à cause de le fait qu'elle a trop de laine ou à cause de son poids, ils vont les mettre à un régime drastique. Douloureux, difficile, pénible, mais salutaire. Et parfois, nous ne soyons pas trop durs quand le Saint-Esprit nous remet un peu à notre place, nous fait passer par des moments qui nous dépouillent un peu de notre propre nature, parce qu'il nous prépare également à vivre quelque chose de meilleur devant. Il nous évite des situations compliquées. J'avance rapidement. La quatrième dimension, c'est que le bon berger conseille et dirige ses brebis. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les bergers souvent doivent conduire les troupeaux pendant l'été, parce que pendant les prédos de printemps, l'herbe elle est bonne, mais pendant l'été, l'herbe elle est sèche, elle n'est plus là, et ils doivent les conduire vers des distances parfois très éloignées. Il va les faire passer par des situations compliquées, parfois par des chemins rocailleux, des chemins épineux, et il va les conduire parce qu'il connaît le chemin. Il connaît vers quelle terre il va. Parfois, il va les faire emprunter des parcours assez complexes, mais dont lui, il a la connaissance. Et il est celui qui dirige nos sentiers, qui dirige nos vies, qui conduit nos pas. Et dans notre vie aujourd'hui, on a besoin plus que jamais d'être dirigé par le Saint-Esprit. Le Seigneur qui nous conduit jusqu'à notre destination céleste connaît les rencontres qu'on aura demain. Il connaît les problèmes auxquels on sera confronté. Il connaît les pièges qui sont dans notre vie. Il connaît où est-ce qu'on sera heureux et où est-ce qu'on pourrait être malheureux. Il connaît quels sont les défis qui nous attendent demain. Et lorsqu'il nous conduit au quotidien, il nous dirige et il transforme réellement notre vie. Pour moi, c'est l'une des caractéristiques les plus extraordinaires de la grâce de Dieu. Si on est des brebis, on suit notre berger, on suit notre Seigneur. Et lorsqu'il nous conduit, nous ne manquons de rien parce qu'en route, il prend soin de nous. En route, il nous dirige. Plusieurs fois, je me suis trouvé dans une situation compliquée parce que j'ai refusé d'être une brebis. Je voulais en faire à ma tête et faire comme je le pense et comme je le veux. Et le Seigneur m'a néanmoins laissé. Mais je me rappelle aussi que chaque fois que je me suis confié en lui et que j'ai mis ma confiance en lui, Dieu a pris soin de moi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous. Il veut te conduire, il veut te conseiller, mon ami. Je me rappelle lorsque j'étais étudiant et que j'avais fini mon master 2 en économie, je voulais tout sauf reprendre des études, vraiment. Et le Seigneur m'a conduit à reprendre des études. Mais j'ai été têtu pendant quelques mois néanmoins, et j'ai payé prix de ma têtutesse. C'était douloureux. Mais j'ai dû reprendre ces études-là. Et quand je les ai reprises, j'ai vu la main de Dieu. Après, quand j'étais de Rouen, j'ai changé d'église, j'allais sur Paris. Moi, je voulais aller d'un endroit particulier. Je voulais tout sauf venir à Paris. Vous savez, ça arrivait à certaines personnes ici de dire, Paris, moi, jamais. Je suis seul ici, là. OK, bon. Il y a quelques mecs qui se lèvent, ils ont dit, non, moi, jamais Paris. Je vois Sandrine lever la main à fond. On ne voulait pas, mais Dieu nous conduit, non pas vers là où on aime, mais là où c'est bien pour nous. Et lorsque j'étais sur Paris, le Seigneur me dit, viens à Évry. J'ai dit, non, Seigneur. Paris, c'est bien. Franchement, Paris, c'est une belle ville, vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aime beaucoup visiter Paris la nuit. Vous avez des choses à visiter. J'ai vécu à Paris pendant un certain nombre d'années. Et c'est juste, vous allez au travail en bus, c'est génial. Juste pour ça, Paris est beau. Mais une fois de plus, le Seigneur dit, suis-moi. Et on a besoin, beaucoup plus que jamais, de la direction de Dieu. Dans le choix de notre partenaire de vie, dans le choix de notre travail, dans nos projets immobiliers, dans nos projets d'études, dans notre entreprise au quotidien, on a besoin du conseil de Dieu. On a besoin du conseil de Dieu pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis. Oh mes amis, Dieu c'est lui qui connaît le chemin. Il est avant et il est après. Il est celui qui est l'alpha et l'oméga. Il connaît ton... Il est hors du temps, dont il voit tout. Alors pourquoi se priver d'une belle direction de Dieu? Faisons confiance en notre Dieu et sachons mourir à nous-mêmes afin de le laisser nous conduire. La qualité d'une vie chrétienne dépend finalement de la qualité de notre capacité à écouter le bon berger. Quand il nous conduit, mes amis, il nous rend prospères. Même quand c'est difficile, même dans un désert au plus fort et à la dimension la plus élevée, il nous conduit. Parfois dans la vallée, parfois dans les hauteurs, Mais le plus essentiel, bien l'essentiel, c'est quoi? Ce n'est pas tant le chemin, mais c'est le guide qui est avec nous. Parce qu'il est là et il prend soin de nous. Le cinquième élément, c'est qu'il nous procure assurance et réconfort. Il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans d'autres versions, c'est me réconforte, me console. Vous savez, marcher avec le Seigneur va nous amener à nous aller dans des directions parfois qui sont complexes, qui sont compliquées. Mais il nous conduira dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi, je n'aimerais pas aller dans cette vallée. Franchement, ça me fait souvent penser à la vallée de l'ombre de la mort. Ça me fait penser à un dessin animé que vous connaissez, le Roi Lion. Vous savez, quand le petit lion se perd là. Ceux qui connaissent, quand le petit lion se perd, à un moment donné, il trouve des méchants qui se font passer pour des gentils. Et il se retrouve dans une vallée dangereuse. Mais parce que son père n'était pas là, le lion, il va se perdre pendant très très longtemps. Mais quand son père va débarquer près des hyènes, il va les dégommer rapidement. Et mon père, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée du doute, dans la vallée de l'inquiétude, dans la vallée des difficultés, mon Dieu est là. Mon Dieu est présent. Il me fait reposer dans les verts pâturages, mais il me conduit également lorsque je ne connais pas comment je vais finir la fin du mois, lorsque je ne connais pas comment je vais faire avec mes enfants, lorsque c'est compliqué dans mes études. Il est celui qui est présent et qui prend soin de moi. Oh, l'environnement a l'air compliqué. Peut-être la nuit est longue et peut-être les moments sont terribles et difficiles. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on se sente rassuré par sa présence. Mais si on sort de sa présence, nous sommes responsables de nos propres choix. Mais il y a deux éléments sur lesquels je voudrais m'attarder. Deux éléments, ta houlette et ton bâton. La première chose, c'est le bâton. Le bâton, pour le berger, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de la protection. Il l'utilise pour se protéger lui-même, mais également pour protéger ses brebis. Parce qu'il y a des loups qui peuvent débarquer, il y a des pumas qui peuvent arriver, il y a des prédateurs qui rôdent autour, et donc il se sert de son bâton qui est également la parole de Dieu utilisée de manière sage et efficace pour protéger son troupeau. Il l'utilise pour se protéger lui-même, pour protéger le troupeau, mais aussi pour discipliner le troupeau. Parce que parfois, il y a des brebis qui sont un peu récalcitrantes, qui essaient d'embarquer tous les autres brebis. Et donc le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son bâton et il donne un petit coup pour essayer de protéger tout le troupeau, y compris la brebis qui est têtue. Et donc, il a un bâton, non pas de manière sadique, mais de manière protectrice, pour veiller sur le troupeau et sur la santé globale du troupeau. Je me rappelle quand j'accompagne mon fils régulièrement les matins à la crèche, j'ai actualisé le bâton de la brebis parce que je me suis dit, à quoi cela pourrait-il bien ressembler? Il y a souvent un voisin qui sort avec un gros chien. Mais vraiment, il est gros, ce chien. Et dès qu'il sort, je vois, moi-même déjà, je ne suis pas très rassuré quand je vois ce chien. Encore plus mon fils. Il commence à marcher un peu comme ça. Tu vois. Regarde, et le chien, il est... Mais vous savez, ce qui me rassure, c'est que son maître, il a une laisse avec lui, il le tient. Dès que le chien commence à vouloir un peu débarquer, il le ramène là. Il le tient en laisse, c'est ça, non? Il le tient bien. Et parfois, j'assiste à des combats de chiens d'aboiement parce qu'il y a un qui tient son, il y a un qui a son chien, il rencontre un autre chien et il commence à crier l'un après l'autre. C'est très drôle. Mais ce qui me rassure dans cette situation, mes amis, c'est pas tant le chien, c'est le maître. Le fait qu'il a quelque chose, s'il n'a pas de corde, il laisse son chien comme ça. Franchement, je porte mon fils et puis... Moi, je ne fais pas confiance à la nature. Donc, il n'est pas assez très intelligent. Donc, il fonctionne par son instinct, naturellement. Et donc, le bâton permet de sécuriser le berger. Et parfois, moi, je me rappelle quand j'étais encore tout petit, parfois, derrière la maison de mon grand-père, il y avait une piste assez risquée, quand même assez dangereuse. Et donc, il fallait que je prenne quelque chose pour éviter qu'il, lorsque je passe dans des chemins dangereux, qu'il ne tombe et qu'il ne s'éloigne. Et mes amis, Dieu parfois nous corrige un peu. Il nous discipline un peu par son Esprit Saint. Il nous empêche de prendre des chemins qui vont nous détruire et qui vont nous perdre. Ne regardez pas la discipline du Saint-Esprit. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui en parle. Il dit, ne regardez pas d'un mauvais regard la discipline du Saint-Esprit. Parce que parfois, il nous corrige afin de nous sauver. Peut-être le travail pour lequel tu voudrais tellement aller, le Seigneur est en train de te sauver. Je me rappelle d'un de mes oncles qui vivait au Cameroun et qui avait toujours rêvé d'aller vivre en étranger. Et une fois, il avait réussi, après plusieurs tentatives, un visa pour aller au Japon. Et on était tous contents, on dit, waouh, il va aller au Japon, il va pouvoir se trouver une situation qui est plutôt agréable et pouvoir finalement donner un nouveau sens à sa vie, une nouvelle orientation à sa vie. Mais le jour où il va à l'aéroport, on se rend compte qu'il y a une erreur sur son visa. On n'a pas mis la bonne date, on n'a pas mis une bonne information. Et donc c'était le scandale, parce que vous savez, souvent c'est un événement qu'on voit quelqu'un partir. C'était le scandale parce qu'il avait dit au revoir à ses amis, il avait la honte de sa vie maintenant. Il était en train de se battre, il luttait coûte que coûte pour pouvoir y aller. Et il a quasiment fait un scandale là pour y aller. Mais finalement, il n'y est pas allé. On a dit, écoutez, venez la semaine prochaine, mais il n'y a pas le choix. En plus, les Japonais, ils sont très carrés. On ne peut pas le laisser. Vous savez ce qui s'est passé finalement? Il rentre chez lui, il se couche, et le vol qui devait partir a volé après 2 heures et s'est crashé. Aucun survivant. Il était en train de lutter, de s'entêter, de payer cher pour aller mourir. Alors que Dieu n'avait pas prévu cela pour lui. Soyez attentifs, mes amis, aux voix du Saint-Esprit. C'est la même chose avec Samson. Il s'entêtait, Dieu a mis un lion en face de lui, il a tué le lion, il était content, je suis fort. Mais il n'était pas censé manger dans un animal mort, parce qu'il était nazaréen. Et il a désobéi. Mes amis, soyons sensés. Parfois, lorsque c'est trop compliqué, vaut mieux s'asseoir et prier, dit Seigneur, tu es mon berger. Si tu es en train de me donner un coup de bâton, j'accepte et je reste tranquille. Parce que tu connais mieux le chemin que moi. Une autre dimension du bâton, c'est, pas du bâton, mais on parle aussi de la houlette. La houlette, c'est beaucoup plus fin. C'est une brindille, c'est beaucoup plus doux. C'est une dimension beaucoup plus de compassion. Et le berger s'en sait pour pouvoir ramener proche de lui ses brebis dans des situations un peu compliquées. Là, ce n'est plus la fermeté, mais c'est la douceur, c'est la compassion. Lorsqu'on a pris des chemins tordus et qu'on s'est éloigné de Dieu, le Seigneur vient à nous avec amour, avec compassion. Il vient prendre soin de nous. Il nous parle avec simplicité. Il nous corrige avec douceur. Et il prend soin de nous. Il veut que nous soyons remplis de sa grâce et de sa vie. Amen. Sixième dimension de la brebis, c'est que la protection et la vie en terrain ennemi. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ça veut dire quoi? Globalement, les brebis, ils sont en train de manger, ils sont en train de se nourrir. Je vais raccourcir un peu l'image. Mais autour d'eux, dans les hauts lieux, dans les hauteurs, se trouvent généralement des prédateurs qui attendent l'instant où le maître va disparaître et qu'ils vont jaillir pour s'emparer des brebis. Et Timothy Keller, dans son histoire, raconte combien de fois parfois, en négligeant, en ne veillant pas, comment est-ce que le loup est entré et l'a détruit complètement tout le troupeau. Et l'apôtre Paul dira même que je sais que quand je partirai, des loups viendront parmi vous et vous seront de vous diviser. C'est une réalité dans le cadre. Il y a des loups qui existent, mes amis. Il y a un ennemi qui rôde et qui veille et qui cherche qui va dévorer. Qui réfléchit comment est-ce qu'il va détruire votre relation avec Dieu, détruire votre vie de famille, détruire vos finances, détruire tout ce qui pourrait être bien pour vous, détruire votre couple. Il rôde et il veille, cherchant qui dévorer. Mais la seule sécurité de la brebis, c'est que son berger est autour. Et que lorsque, en terrain ennemi, il peut s'asseoir et manger. Il peut rester tranquille parce qu'il sait que son maître est là. Il sait que le patron est à côté de lui. Il sait que l'homme qui tient sa vie, qui dirige sa vie, est avec lui. Et c'est ce que Dieu nous conduit dans cette vie, remplie d'ennemis, remplie de pièges de Satan. Dieu est présent, le Seigneur est présent au milieu de nous, en terrain ennemi, et nous permet même de vivre et de prospérer en terrain ennemi. C'est comme si vous construisez une ambassade dans un terrain ennemi. Il y a les balles qui fusent partout. Votre seule protection, c'est que vous avez un protecteur avec vous. Et c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne, mes amis. Jésus dira à Pierre, « Satan a réclamé ton âme, mais j'ai prié pour toi. » Parfois, on n'est pas conscient de ce que l'ennemi veut détruire nos vies, ou nos enfants, ou nos petits-enfants. Mais si le Seigneur pouvait, ces quelques instants, ouvrir nos yeux pour qu'on voit comment il est là comme le divin protecteur. C'est lui qui nous permet de prospérer en terrain ennemi. À ton travail, c'est lui qui te permet, lorsque tout le monde est jaloux, ou bien tout le monde ne t'aime pas, lorsque tout le monde ne veut te faire, peu importe, il te permet néanmoins de t'épanouir. Lorsque tu es dans un environnement, dans une famille où tout le monde veut te rejeter, il est néanmoins là pour veiller sur toi. C'est ça la bénédiction d'une brebis. C'est qu'en face de mes ennemis, dans le terrain de l'ennemi, Dieu dresse une table où je m'assois et où je mange tranquillement. Parce qu'il est le bon berger. Et je veille à ce qu'il soit là. Parce que s'il n'est plus là, j'ai des vrais problèmes. Mais puisqu'il est là, et puisqu'il est bon, il prend soin de moi. Il me protège et il veille sur moi. La dernière dimension, c'est qu'il dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ici, il nous parle de l'huile d'onction. L'onction du Saint-Esprit. Il dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Deux pensées sur ce point. La première, c'est que pendant l'été, les brebis ont de vrais problèmes. Parce qu'il y a des mouches, il y a des insectes qui viennent piquer et qui viennent causer des véritables problèmes. Cela peut les amener à être irrités, à s'agiter, à les cogner la tête sur le pied d'un arbre au point de carrément se faire très très mal. Et ce que les bergers font, c'est que lorsque les moustiques arrivent comme ça, ils mettent de l'huile pour apaiser les douleurs, pour apaiser, pour protéger cela. Moi, je me rappelle de cela quelque temps, on était parti en mission en Pologne. Peut-être Mélodie doit se rappeler, on est allé dans une ville où il y avait plus de moustiques que d'habitants. Je vous assure, et quand ils aiment votre peau, c'est un vrai problème. Parce qu'ils vous dévorent. Franchement, j'ai lu sur le Facebook, le statut Facebook de quelqu'un qui avait dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il disait que si tu crois que tu es trop petit pour faire quelque chose, demande à l'éléphant l'impact de la mouche dans son oreille. Parce que parfois on est tellement petit, mais vous savez les dégâts qu'une mouche peut commettre dans les oreilles d'un éléphant. Moi, c'est quelque chose que je déteste entendre, une mouche qui tourne quand je me couche dans ma chambre. Donc juste une mouche qui est invisible et infiniment petite est capable de me rendre en colère, m'énerver au point où je sors, je tape partout. Mais et la Bible nous enseigne que ces moustiques, ces mouches, c'est les mauvais esprits, c'est tout ce qu'on peut imaginer qui viennent détruire notre vie. Mais il dit, ton huile d'onction, lorsqu'il verse cette huile-là, ça rejette cela. Et je me rappelle maintenant quand on avait acheté le fameux produit anti-moustique. Bon, ça marche parfois, ça ne marche pas, hein, mais bon. Le produit anti-moustique, lorsque vous le mettez sur votre peau, il vous protège des piqûres violentes des moustiques. Et dans cette vie, il y a des moustiques un peu partout. Et on a besoin de l'huile et de l'onction du Saint-Esprit pour nous protéger et pour nous garder. La deuxième dimension de cette, par rapport à l'huile, c'est que les brebis ont beaucoup de gale. La gale, c'est ce truc dans les cheveux qui vous frappe. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu. Moi, quand j'étais petit, j'en ai eu. Et donc, du coup, c'est très fragile. Et comme les brebis, elles aiment trop se faire les bises et la tête comme ça, donc ils se donnent des coups de tête. Parfois, ça se propage très rapidement. Et l'un des seuls moyens de guérir cela, c'est de verser de l'huile, de goudron, une huile qui permet de pouvoir guérir les blessures et les plaies. L'onction du Saint-Esprit guérit. Et le Seigneur nous donne un esprit aussi de guérison. Son huile nous guérit, son huile nous restaure, son huile pense nos plaies les plus profondes et les plus dérangeantes. Et Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut restaurer notre âme. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et cette huile, ce n'est pas une huile qu'on met une fois pour toute l'année. C'est une huile dont on a besoin de s'asperger jour après jour, matin après matin, tous les jours, on a besoin de voir cette huile nous renouveler et d'être rempli d'elle. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Le Seigneur finit le passage en disant, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Cantique de David. David aimait la maison de Dieu. Il aimait l'Église. Oh, elle n'était pas parfaite. Hein? Elle était remplie de défis et de problèmes. Mais c'était la maison de Dieu. Et il disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Imaginez ces grâces. Le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur nous conduit vers des eaux paisibles. Le Seigneur restaure notre âme. Le Seigneur nous fait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous conduit. Il fait son onction reposer sur nous. Sa houlette et son bâton sont sur nous. Et il prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Je vais devoir vous lever. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes son pâturage. Nous sommes ses brebis. Je voudrais ce matin vous inviter à reconsidérer cela. Le Seigneur veut que vous soyez sa brebis, que vous soyez dans son troupeau. Aussi bien le troupeau divin, vous avez au moins deux bergers, le berger céleste, mais aussi le berger. Dieu dit, je vous donnerai des pasteurs, des bergers qui prendront soin de vous. C'est ce qu'on essaie de faire aussi, avec l'aide et la force de Dieu. C'est de vous conduire dans les voies que Dieu veut vous amener. Et moi, je crois que Dieu veut le faire, réellement. Alors, je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin. Je voudrais te dire que le divin berger est présent en ce lieu. Celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui cherche, celui qui console, celui qui nourrit et celui qui prend soin. Et c'est lui, notre bon berger. Peu importe notre âge et notre ancienneté chrétienne, on a tous besoin d'un berger. Qu'on soit berger ou leader, peu importe, on a aussi le bon berger céleste. Mais une dernière chose, c'est que le bon berger aussi, lorsque dans son enclos, il en manque une qui s'est perdue, il court, il va la chercher. Il va parcourir les lieux et les endroits reculés pour les chercher. Peut-être ce matin, tu arrives en ce lieu et tu as une brebis qui est égarée parce que tu t'es éloigné pendant très longtemps de la bergerie. Tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné du Seigneur, tu sais que tu n'es pas proche de lui. Moi, je veux prendre l'occasion ce matin, pendant que chacun baisse le front et est simplement dans ce temps de méditation avec le Seigneur. Si c'est ton cas ce matin, j'ai envie de prier avec toi. Si tu dis, Seigneur, je veux revenir dans ta bergerie parce que je me suis éloigné de toi. Là où tu es, lève la main quelques instants, je veux prendre le temps de prier avec toi. Si tu as une brebis égarée ce matin, je veux prendre le temps de prier pour toi. Je vois quelques mains se lever. Je te laisse avoir quelques instants. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, je veux revenir dans ta bergerie. Je veux revenir dans ta bergerie. Seigneur, merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces cœurs qui se tournent vers toi, Seigneur. Comme le Père et le Fils prodige, embrasse chacun puissamment par ton esprit. Ramène-les au cœur de la relation qu'ils ont besoin d'avoir avec toi. Écris leur nom dans ton livre de vie. Nous sommes que des instruments entre tes mains, Seigneur. Mais grave quelque chose qui a un changement ce matin et qui a un avant et un après. Guéris les plaies, Seigneur. Répands ton huile d'onction. Et par-dessus tout, Seigneur, sois le bon et divin berger. Amen. Maintenant qu'on prend un temps de chant encore, je vous invite vraiment à méditer sur ces chants et sur ces paroles et à élever votre voix à Dieu pendant que l'équipe de Saint-Saëns s'approche, qui vont distribuer les éléments comme on a l'habitude de le faire et on les partagera ensemble.